BW. Droits et libertés.
Aux États-Unis, les parents blancs appréhendent souvent de parler de sexe avec leurs enfants. Les parents noirs, eux, doivent aborder un sujet bien plus délicat encore avec leur progéniture, le racisme et notamment celui de la police. Les Afro-Américains ont même un nom pour cette discussion inéluctable dans les familles, The Talk. On en parle ainsi que des mécanismes de racisme dans la société américaine. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. La mort de George Floyd a fait réagir dans tous les États-Unis, puis les protestations se sont répandues dans le monde entier via les réseaux sociaux, puis des manifestations de rue. Ce que vous entendez ici, ce sont des dizaines de personnes qui se sont rassemblées jeudi dernier devant l'ambassade américaine de Nairobi, au Kenya. Étienne Machouli et Nafula Wafula faisaient partie des manifestants.
Nous sommes venus protester aujourd'hui contre ce qui s'est passé aux États-Unis à Minneapolis. C'est un affront contre l'humanité dans son ensemble. Nous prenons conscience de l'importance des vies des Noirs. Ils ont une importance aux États-Unis comme sur le continent africain.
On vit tous dans des endroits différents, mais nos combats sont quasiment les mêmes. Nous sommes solidaires et le resterons pour combattre l'oppression systématique sur des critères raciaux. Il faut démolir les structures raciales.
Comme les autres organisations de défense des droits de l'homme et de lutte contre le racisme et la xénophobie, l'ONG Human Rights Watch condamne la violence gratuite qui a tué George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier. Mais cette mort, hélas, dépasse la simple personne de la victime et de ses proches. Elle trouve un écho chez tous ceux qui sont horrifiés par n'importe quelle distinction faite au nom de la couleur de peau. C'est pourquoi la mort de George Floyd, filmée et exposés sur les réseaux sociaux, ravivent des plaies profondes. Il faut donc des réformes en profondeur, c'est ce qu'explique Charlotte Recoquillon, chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique, spécialiste des États-Unis et auteure aussi de recherches sur les violences policières et le mouvement des Black Lives Matter ou sur le racisme. Elle est interrogée par Hugo Flotatalon.
Qui est spécifique en tout cas à la société américaine par rapport à d'autres sociétés, c'est que c'est une société post-esclavagiste dont le fondement, ce que Barack Obama avait qualifié de péché originel, l'esclavage. C'est-à-dire que la fondation de ces États-Unis, quand ils ont été pensés comme démocratique, libérateur, etc. C'était libérateur pour certaines personnes, pas pour tous, et pas pour les Africains américains, enfin les Africains à l'époque esclaves, et Africains américains aujourd'hui. On a effectivement une société qui s'est construite sur un système d'oppression raciale, donc ça imbibe toutes les structures de la société. La police étant l'institution qui est censée protéger l'État, finalement, et les institutions, portent en elles-mêmes ces structures-là. Après, la différence aussi avec la police aux États-Unis, c'est qu'elle est très armée et très habituée à la violence. Ça facilite souvent des niveaux de violence élevés.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, en tout cas peut-être, que la vidéo, les portables, jouent un rôle particulier et qu'ils peuvent aider à améliorer la situation?
Plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que c'est l'attention médiatique qui arrive par vague, parce que le nombre de morts et de violences, il est continu, et donc ça, c'est assez régulier. Après, les opinions publiques s'en émeuvent par vague. Donc là, en l'occurrence, effectivement, ça a été facilité par la vidéo, qui permet cette attention-là, et dans ce sens-là, on peut quand même se dire, si on veut être un peu positif, qu'il y a des progrès qui sont faits parce que il y a encore peu de temps, ces vidéos existaient mais ne suscitaient pas forcément beaucoup d'émoi, ou en tout cas un émoi limité à certaines catégories. J'ai quand même envie d'émettre des réserves. D'abord, il y a de nombreux cas où, malgré les vidéos, l'existence de preuves, quand on va plus loin dans les processus, d'inculpation, de procès, etc., ça ne mène pas forcément à la condamnation, voire même tout court au procès. Donc ça ne fait pas tout, la vidéo. Il y a de nombreux cas où elles sont complètement ignorées. Et puis, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact traumatique que peuvent avoir ces vidéos-là sur notamment les personnes noires qui peuvent s'identifier aux victimes ou connaître de potentielles victimes, etc. On a vu sur Twitter de nombreuses personnes témoigner du choc que c'est pour eux, etc. Donc l'impact de ces images ne doit pas être pris à la légère non plus.
Et selon vous, par quoi il faudrait commencer aujourd'hui pour que ce système de police change? Comment réformer ça? Est-ce qu'on peut citer 2-3 mesures simples ou c'est beaucoup plus compliqué que cela?
D'une part, je dirais qu'il faut faire confiance aux organisations et aux associations sur le terrain qui font un travail. Et notamment à Minneapolis, les associations qui travaillent sur la question des relations police-citoyens. Après, il y a des organisations comme Campaign Zero, qui, depuis plusieurs années, développe des propositions pour justement réduire à zéro le nombre de violences policières et de personnes tuées par la police. Ils ont notamment 10 champs d'action. Alors, pour vous en citer juste quelques-uns, eux, ils travaillent sur la question des vidéos, justement, des body cameras pour les policiers. Ils militent également pour la fin des politiques qu'on appelle de la vitre cassée, c'est-à-dire que tout ce qui va être le policing de la qualité de vie et des petites infractions au lieu de s'attaquer aux grands crimes et aux grands réseaux, etc., ça crée des interactions avec la police qui sont potentiellement dangereuses pour finalement peu de choses. C'est ce qu'on appelle aussi la criminalisation de la misère, la pauvreté. Ils travaillent aussi sur, par exemple, la réécriture des règlements intérieurs des commissariats de police et notamment du rôle des syndicats dans la protection de la police en cas de bavure. Ils font des propositions aussi pour limiter l'équipement et le suréquipement, notamment le suréquipement militaire des policiers. Enfin bon, voilà, ils ont 10 axes de travail, ça s'appelle Campaign Zero, et vous pouvez aller regarder. Et ils font aussi un tracking de toutes les mesures qui sont prises localement aux États-Unis sur ces sujets-là.
Dans notre pays, on apprend aux Noirs qu'ils doivent être 2 à 3 fois meilleurs que les autres pour arriver à quelque chose. On nous surveille constamment.
Eric Lewis se souvient parfaitement du moment où ses parents à lui ont commencé à lui parler de racisme, où ils lui ont expliqué que les Noirs, en Amérique où il a grandi, n'avaient pas les mêmes chances de réussite que les Blancs.
We're always aware.
On a toujours à l'esprit que les autres nous perçoivent comme des gens différents. C'est un poids avec lequel il faut apprendre à vivre.
Eric Lewis vit en Californie, à Long Beach. Il a presque 40 ans et travaille comme monteur pour des films et des séries télé. Pendant ses études en Indiana, il a rencontré des gens qui n'avaient encore jamais vu de noir en vrai avant lui. Aux États-Unis, je vous le disais, il existe une expression pour nommer la discussion que les parents entament avec leurs enfants pour les sensibiliser et les préparer, en quelque sorte, au racisme de la société. The talk, c'est-à-dire mot à mot, la discussion donc. Les enfants noirs abordent ce sujet en famille dès l'âge de 6 ans environ, parfois même plus jeunes. On leur explique qu'il vaut mieux qu'ils évitent de se frotter à la police, que s'ils se font interpeller, ils doivent lever les mains en l'air quand les policiers le leur demandent et doivent le faire calmement, sans agressivité. Sinon, eh bien, ils risquent que la situation ne dégénère, voire même d'être tués. Et ça, les parents le leur apprennent très tôt. Une vidéo tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. On y voit des enfants noirs prendre la parole pour expliquer ce qu'ils diraient à des policiers dans des situations tendues. Exemple, cette petite fille de 8 ans qui explique qu'elle ne porte pas d'armes.
I'm Ariel Sky Williams. I'm 8 years old. I'm unarmed and I have nothing that will hurt you.
Make sure to mind yourself a little bit extra.
Il faut être particulièrement poli quand tu parles à la police, avec les profs aussi, avec tous les gens qui ont du pouvoir et qui peuvent sinon te pourrir la vie.
Make your life much more difficult.
Jelani Memory a consacré un livre au phénomène, A Kid's Book About Racism, un livre d'enfants sur le racisme, à destination des enfants à partir de 5 ans et de leurs parents à qui il propose de donner des mots. C'est le fait d'être lui-même père de 6 enfants noirs qui lui a donné l'idée.
En règle générale, les Blancs ne parlent pas de racisme à leurs enfants, alors que les Noirs sont bien obligés de le faire, puisque leurs enfants y seront confrontés dès la petite école. Les enfants noirs prennent donc très vite conscience de leur statut social et de leur couleur de peau. Mes enfants ont vite compris que ce n'était pas acceptable de tuer quelqu'un, surtout s'il n'a pas d'armes. La mort de George Floyd les a rendus tristes, puisqu'elle les a mis en colère. Ça a été l'occasion pour nous de parler des raisons des manifestations et même des débordements.
Le monteur Eric Lewis a lui aussi un enfant. À 3 ans, sa petite fille est déjà sensible aux inégalités et elle s'intéressera sans doute bientôt aussi au racisme, voire même à la police, même si son père le déplore.
Malheureusement, je lui vole une partie de son innocence d'enfant avec ces sujets, mais il faut bien que je la prépare au monde extérieur et à ce qui attend les gens qui ont son apparence.
Il existe, dit-on, quelques racistes indécrottables, mais avouez que dans l'ensemble, la population aime bien.
C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Hugo Flotatalon et Charlotte Rocoquillon. Merci aussi à Katharina Wilhelm pour les sons des États-Unis. Pour Balado diffuser Droits et Libertés, allez faire un tour sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
On dit des choses qui blessent, c'est fini le temps des complexes. Le pharaon se tord, on a tiré sur la sagesse. Ici dans le temple, et les complices contemplent déverser la bile. Et les complices contemplent le son colonial de Napoléon, le petit inculte. Ici on comprend pas pourquoi un immigré nous insulte.
La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre ou en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racines.